Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Nous voulons prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Le Roi du Rayon, 93 FM. Bonjour.
Bonjour.
Dans les fonds marins, les poissons, les crevettes, le corail et les autres cétacés font des sons. Et parmi eux, les baleines à bosse s'échangent ces phrases qu'on vient d'entendre et qui s'appellent le chant des baleines. C'était le début de leur conversation.
Alors, des formes animales, de l'art rupestre au robot Tars dans Interstellar, en passant par notre référence aux noctules, sympathique chauve-souris, les non-humains sont fort présents dans nos vies et nos imaginaires. Mais d'abord, c'est quoi un non-humain? C'est quoi ce mot? Qu'est-ce que ça dit? Si on dit animaux, par exemple, on oublie parfois qu'on en fait partie, en tant qu'humain. Et si on dit être agissant, acteur, sujet, on oublie parfois qu'ils en sont. Le terme non-humain est d'abord là pour nous rappeler qu'on appartient à des catégories communes dont on ne se distingue que par ce point, appartenir ou non à l'espèce humaine. Et ces catégories, ça peut être les animaux, ça peut être les vivants, donc là on rajoute les plantes, les champignons et d'autres bidules. Et ça peut être les agissants, les acteurs. Et là ça rajoute les virus, on a bien vu qu'ils étaient agissants, les intelligences artificielles, les cyborgs, mais aussi des objets, des discours, comme en sociologie, dans la théorie de l'acteur réseau, développée par Michel Calon, Bruno Latour, Madeleine Akrisch. Bref, ça soulève plein de questions passionnantes. Et sur cette place de non-humain, si on en croit les antonymes du substantif « humain », inhumain, impitoyable, féroce, cruel, dur, méchant, autoritaire, brutal, barbare, bestial, brut. Non-humain, dans notre monde, c'est pas la bonne place. C'est la place de ce qui compte pas. C'est la place de la nuisance, la place de ce qui est mauvais, de ce qu'il faut réformer, corriger, dresser, dompter, voire supprimer. Et rejeter quelqu'un de l'humanité, c'est une manière classique pour court-circuiter toute empathie. Et à repousser son adversaire hors du monde des sujets à écouter et des corps qui comptent. C'est ce qui permet des génocides. On peut penser par exemple au titre « Exterminer toutes ces brutes » de Raoul Peck, qui est une phrase qu'il a malheureusement pas inventée. Et ça montre bien que c'est comme si le droit à l'existence, il était conditionné au fait d'être suffisamment semblable aux humains, suffisamment semblable aux sujets, qui sont souvent des sujets masculins, blancs, enfin voilà, ce qui fait qu'on rejette en dehors de l'humanité, je me perds un peu, mais et ben voilà, soit des femmes, soit des personnes bizarrement genrées, soit des personnes racisées, soit des personnes d'autres milieux sociaux, comme si on avait de l'empathie que pour ce qui nous est identique. Bref, on va surtout parler aujourd'hui des non-humains vivants au sens organique du terme, sauf peut-être dans la dernière partie de l'émission. J'aurais beaucoup aimé interviewer une cyborg, mais ce sera, j'espère, pour une autre émission. Et pour commencer, j'aimerais vous parler du rapport aux non-humains organiques, aux vivants, ce qu'on désigne parfois comme la nature, quand on l'oppose à l'humanité. Cette idée de nature, c'est un peu une vision réductrice et symptomatique d'une altérité radicale, puisque c'est comme un simple décor ou des objets ou des ressources. Et aujourd'hui, je voudrais aborder notre rapport à ce monde vivant sous l'angle d'un livre de Estelle Zhang Mengual, un livre qui s'appelle « Apprendre à voir », édité chez Actes Sud en 2021. Et dans ce livre, qui est vraiment génial, l'autrice, qui est historienne de l'art, elle étudie notre rapport au vivant par le prisme de deux approches qu'elle affirme complémentaires. D'un côté, l'histoire de la peinture, et de l'autre côté, les observations des femmes naturalistes du XIXe siècle. Alors tout d'abord, la peinture, c'est que longtemps, dans la peinture, on voit que le décor, c'est comme... que la nature, c'est comme un décor pour des actions humaines, qui serait seule porteuse de signification. Ensuite, parfois, la nature, elle va être expressive, mais seulement à la manière d'un miroir, d'un écran de projection pour les sentiments humains. C'est rare que, comme chez par exemple Dürer dans La grosse touffe d'herbe, on contemple des non-humains pour ce qu'ils sont. Et cette forme de distraction à l'égard de ce qui n'est pas humain, de négligence, elle s'ancre à l'époque moderne dans l'idée développée par Galilée que le grand livre du monde est écrit en langage mathématique. Du coup, le postulat moderne, c'est que connaître le monde, c'est l'abstraire. C'est ce que Estelle Zhang Mengual appelle le partage de l'enchantement, ou la phrase « tout ceci n'est que des processus mécaniques », par exemple. Et selon ce partage de l'enchantement, seule la science possède l'autorité pour dire le monde. Et la vérité de ce monde, c'est précisément l'absence d'enchantement. Et ça suppose pas seulement d'abandonner les croyances en le surnaturel, les superstitions, l'obscurantisme, toutes choses que combattent les Lumières, mais ça va jusqu'à, je cite, « faire preuve par une série d'objectivations des phénomènes du monde vivant que ceux-ci sont d'abord de la matière régie par des phénomènes causaux dépourvus de signification et d'intentionnalité, ce qui permet d'ailleurs de la considérer comme simple ressource à disposition et, ainsi, ouvre la voie aux pratiques d'exploitation sans égard. » Je me permets de rajouter ici, attention, on ne sait jamais jusqu'où va ce désenchantement. Nos comportements aussi, même nous humains, sont réductibles à des phénomènes objectivables, des statistiques, des lois de l'économie, des algorithmes. Du coup, il faut faire un peu gaffe. Et je trouve que ce phénomène d'inattention au monde, il se retrouve aussi dans nos vies. Sauf dans des vies rurales en prise directe au niveau du métier, par exemple, avec des non-humains. Moi, par exemple, j'ai vraiment vécu ce truc-là d'avoir un rapport très lointain à ce qui n'était pas humain. Il y a un moment où le végétal, à mes yeux, c'était vraiment comme un grand décor vert. Et c'est un jour, un après-midi, en faisant une promenade en Chartreuse avec un ami prof de botanique, que j'ai découvert la multiplicité des formes et les aires de famille entre certaines plantes, et bientôt le rapport entre ces familles et les composés chimiques qu'elles produisent, et du coup leurs propriétés organoleptiques. Et c'était une des plus belles journées de ma vie qui... Et elle irrigue encore mon existence. Tout ça pour dire que, ouais, voilà, il y a. Face à cette inattention pour le vivant, c'est possible de rouvrir le regard et de prendre conscience des multiplicités de formes de vie qui nous entourent et d'aller à leur rencontre, d'apprendre à les reconnaître. Et cette rencontre, elle se fait pas forcément sous la forme de grands récits d'aventuriers explorateurs de la wilderness, ou monde sauvage en français, de l'anglais wild sauvage, comme on peut trouver chez Jack London, qui va aux confins du monde civilisé dans des forêts sauvages. Parce qu'en fait, cette manière-là d'aller vers la nature, elle est parfaitement compatible avec l'idéologie moderne de la nature. Ce qu'elle met en scène, c'est toujours un face-à-face, une confrontation entre l'homme et la nature. Une nature qui serait insignifiante, radicalement étrangère, voire hostile. Et là, je cite Estelle Zhang Mengual. Dans cette tradition, la nature est bien célébrée, mise à l'honneur, mais seulement en tant qu'elle est l'occasion privilégiée pour un jeune ou vieillissant mâle blanc de prouver une première fois, ou une dernière fois, son courage, de se dépasser, comme continuent de l'énoncer les marques des sports de montagne. La nature, dans la tradition wilderness, c'est ce défi physique lancé au mâle plein d'une énergie à revendre. Elle est donc forcément sublime et hostile. L'épreuve autrement s'en trouverait diminuée. Autrement dit, dans la tradition wilderness de l'écriture naturaliste, il n'y a personne d'autre que le soi masculin et ses projections sur un paysage peuplé de désirs, d'obstacles, de victoires, d'illusions, d'échecs et de leçons de vie, mais jamais peuplé par d'autres vivants que soi. C'est la nature, on y apprend bien des choses, mais toujours sur soi et jamais sur les autres. Bim ! À l'encontre de cette perspective, il y a une toute autre approche qui est celle précisément des naturalistes femmes du 19e siècle, mais aussi de certains hommes, par exemple Darwin à certains moments. Une approche qu'on appelle « home-based », de « home », maison, et « based », basé, centré. C'est-à-dire une approche proche du foyer, centrée sur le foyer. Là, il ne s'agit pas de conquérir le lointain, mais de prêter attention aux proches. Je cite « L'attention home-based permet aux vivants de n'être plus seulement le décor de nos existences, mais des manières d'exister et des cohabitants. » Et l'une des naturalistes qui étudie Estelle Zhang-Mengual s'appelle Frances Theodora Parsons. Et c'est elle qui a rédigé le premier guide de terrain américain consacré aux fleurs sauvages. Rien que ça. Elle observe, je cite, « Quand je rencontrais des fleurs que je ne connaissais ni de vue ni de nom, j'étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. » Et là, en fait, ce que pointe Estelle Zhang-Mengual, c'est que cette analogie, elle nous permet de capter la relation qu'on entretient avec le monde quand on n'a jamais prêté attention aux autres vivants. C'est un peu comme quand on arrive dans une fête où on connaît personne. On a beau être très entouré, on se sent parfois seul et on ne sait pas trop où se mettre. Et là, Estelle Zhang-Mengual pose une hypothèse hyper belle, l'hypothèse que, je cite, « L'origine du sentiment de solitude cosmique des modernes n'est peut-être pas une lucidité métaphysique supérieure sur le fait que nous sommes les seuls sujets dans un monde de choses, matière, muette, absurde. C'est simplement qu'on hérite d'une socialisation telle qu'on ne connaît personne à la fête du vivant. » Et du coup, dans ce cas-là, pour sortir de la solitude d'homme seul face à la nature, qui serait purement décor et ressources, bah voilà, on a intérêt à avoir une attention pour d'autres formes de vie et d'autres manières d'être. Leur diversité, leur singularité, mais aussi de prendre conscience que la nature et les autres vivants ne sont pas seulement des objets de contemplation ou de connaissance, mais aussi des points de vue. Et comme elle le dit, être un point de vue pour un vivant signifie être un centre configurateur qui façonne l'environnement physique autour de lui en son milieu vécu. Cette notion de milieu vécu, on la trouve chez Jacob von Uexküll. C'est être un pôle qui configure son environnement en un milieu de vie doté de signification, secrétant et transportant ses propres évaluations. Être un point de vue, c'est être autre chose que l'environnement des autres. Dans cette mesure, on pourra avancer qu'être un point de vue, c'est, à l'inverse, habiter. Et du coup, voilà, tout ça, ça vient rappeler que face à l'idée que le monde des vivants, ce serait un pur décor, des pures ressources, dépourvues de signification, en fait, bien sûr, il y a des significations, bien sûr, il y a de la communication. On peut penser, par exemple, aux crottes des canidés, entre autres, qui servent de blason, qui informent, qui signalent une présence, des limites de territoire. Enfin, il y a pas, les humains n'ont pas inventé la signification, n'ont pas inventé la communication, et c'est complètement délirant de même imaginer ça, quoi. Donc là, on a vu que le vivant n'était pas forcément seulement décor, objet, ressource, mais aussi point de vue, et même acteur et sujet de droit. Et ça commence à arriver dans notre monde, puisqu'en 2008, la Constitution équatorienne a déclaré expressément que la nature, Pachamama, était sujet de droit. En 2014, pour la première fois, il y a eu un orang-outan qui a été qualifié de sujet de droit. Donc au début, c'était un statut juridique incertain. Jusqu'en 2015, où il y a une juge qui a déclaré que c'était une personne non humaine, donc voilà, qu'il a vu comme personne sans avoir besoin qu'elle soit humaine. Et en 2017, il y a le Parlement néo-zélandais qui a adopté une loi reconnaissant la personnalité juridique du fleuve Whanganui. Et quelques jours après, la Cour suprême de l'Uttarakhand indien qui déclarait le Gange et le fleuve Yamuna qui devaient être considérés comme des personnes juridiques vivantes. Du coup, voilà, je trouve que tout ça, quel que soit le rapport qu'on entretient avec le droit et les lois, c'est quand même pas rien. Et je me tais.
Et pour continuer, merci Yuri. Pour continuer, on a reçu une carte postale sonore de Charlène. Merci Charlène, on a été ravis de recevoir cette carte. Et d'ailleurs, si ça vous dit de nous envoyer des cartes postales sonores, nous on adore ça. Et vous pouvez nous en envoyer à noctul, avec un S, @mailo.com, et on sera ravis de les diffuser si ça marche. Et pour introduire cette carte postale, Charlène nous dit que c'était dans la nuit du 9 au 10 novembre 2021, dans la cordillère des Andes. On arpentait depuis quelques heures une vieille forêt d'araucarias, des grands conifères couverts d'écailles, endémiques de cette partie-là du Chili. La lune était forte, elle guidait nos pas et dessinait de très grandes ombres. Avec Alvaro, Lina et Ambrosio, on pistait le con-con. C'est une chouette aux vocalises très surprenantes au moment des parades amoureuses. La carte postale que je vous envoie, c'est un extrait du moment où on les a entendues pour la première fois.
Y la primera vez que yo salí a monitorear estos bichos acá, fui solo, ¿no? Y ya con mi mochila toda la cuestión y como que bajé del auto.
Papá, mamá, j'ai quelque chose à vous dire. J'aime la viande.
Oh, la viande? Qu'est-ce qu'on a mal fait?
Je vous laisse.
N'ayez plus peur de dire j'aime la viande.
Charles?
On n'a pas fini de vous faire aimer la viande.
Qu'est-ce qui s'est passé sur le toit? Et dans vos chambres? Et vous n'avez pas le droit de sortir la nuit? Je vais devoir appeler vos familles.
Ah non.
Ah non. Pas la famille, pas la famille.
Mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger?
Vivons fort. Charles.
Alors, vous êtes toujours dans l'éclat des noctules sur Radio Royan et aujourd'hui, on parle des non-humains. Et moi, ce thème sur les non-humains, qu'on pourrait aussi appeler autres qu'humains, m'a donné envie de vous parler de notre rapport aux animaux et notamment à leur consommation pour nourrir les humains. Alors, je sais bien qu'il s'agit d'un sujet glissant, voire très clivant, mais pour moi, une émission féministe sur les non-humains, sans même évoquer le lien entre l'exploitation animale et les questions patriarcales d'exploitation des femmes, bah ça aurait été vraiment étrange. Alors je suis allée relire des bouts de l'ouvrage de Carol G. Adams, qui s'appelle « La politique sexuelle de la viande, une théorie critique féministe végétarienne », paru pour la première fois aux États-Unis en 1990 et enfin traduit en France en 2016. Le titre est évocateur et peut faire peur.
L'argument principal de ce livre consiste simplement à dire que la domination masculine repose sur la consommation de la viande comme sur le contrôle du corps des femmes. Les deux systèmes d'exploitation reposent sur le même mécanisme et s'alimentent. Alors on l'a d'ailleurs entendu dans les spots publicitaires pour les steaks Charal qu'on vient d'écouter. À l'image, on voit que la supposée petite amie du protagoniste est en réalité un steak Charal. Le lien entre la viande et la force y est très clair. Et puis, vous pouvez aussi vous rappeler les images publicitaires donnant à voir des corps d'hommes robustes et virils parce que nourris avec de belles pièces de viande. Ou encore ces pubs pour le barbecue, la vraie cuisine des hommes. On le voit et on le sait, consommation de viande et virilité sont intimement liées dans notre société. Nelly McKay, dans son très bel avant-propos du livre de Carol G. Adams, titré « Les féministes n'ont pas le sens de l'humour », fait un parallèle entre les représentations des femmes et celles des animaux, qui toutes semblent subir la violence avec bonheur, en souriant. De la tête de vache hilare sur les enseignes des restaurants de viande, aux couvertures des magazines qui affichent la joie toujours renouvelée des femmes s'apprêtant à faire leur régime de l'été, un véritable tour de passe-passe est opéré, qui nie la violence ou fait des victimes les complices de leur oppression. Donc tout est mobilisé pour donner à voir le chevauchement des oppressions. La masculinité se construit sur le goût de la viande, symbole et garantie de la domination masculine, dont la viande vient quotidiennement asseoir la légitimité. Le système de mise à mort et de dépeçage d'êtres vivants, transformé en choses, a bien à voir ainsi avec le patriarcat. L'analyse d'Adams va plus loin. Elle dit que la masculinité implique surtout le déni de cette réalité, que la capacité à tenir à distance le fait que la viande consommée a été un animal. En fait, c'est empêcher que quelque chose soit perçu comme ayant été quelqu'un. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ce double processus-là d'invisibilisation et d'objectivation, Adams le théorise à l'aide de la notion de référent absent. Et donc, elle l'explique par cette phrase « Au moyen du dépeçage, on transforme l'animal en référent absent. L'animal, à travers son nom et son corps, est rendu absent en tant qu'animal, afin que la viande puisse exister. La vie de l'animal précède et permet l'existence de la viande. » Tant que l'animal est vivant, il ne peut pas y avoir de viande. Un cadavre remplace donc l'animal vivant. Sans animaux, il n'y aurait pas de consommation carnée. Mais ils sont pourtant absents de l'acte de manger de la viande, en raison de leur transformation en aliment. C'est ça donc ce fameux tour de passe-passe dont elle parle. Et donc le même processus, donc ne pas voir des êtres vivants dans les représentations des femmes par exemple, est au fondement de l'oppression patriarcale, et de bien d'autres. Donc l'exploitation animale, qui repose sur notre capacité à oublier la mort et la souffrance des animaux, au fondement même pourtant du régime carné, hein, on l'a vu, a ainsi ceci de spécifique qu'elle nous fait accepter la brutalité comme quelque chose de quotidien, de normal, voire de nécessaire. C'est finalement à une véritable conversion de notre regard qu'elle nous invite, pour rendre présent ce référent absent, et ainsi voir son steak comme un animal mort. Donc ce steak comme un animal mort, c'est le titre d'un ouvrage de Martin Gibert. C'est vrai qu'il s'agit même souvent de faire un effort pour voir un animal, un être vivant, derrière une pièce de viande. Les enfants, qui s'étonnent de retrouver dans leur assiette les animaux que les adultes les incitent à caresser ou à dessiner, ont d'ailleurs souvent ce regard. Le mangeur de viande se perçoit comme se nourrissant de la vie. Aux yeux du végétarien, il se nourrit de la mort. Ça, c'est une phrase de Mary McGelly, citée dans le livre. Et donc à ce sujet, moi je me suis demandé pourquoi les animaux sont aussi présents dans la littérature jeunesse. Pourquoi les sorties à la ferme, au zoo, au cirque sont aussi courantes pour les enfants et qu'est-ce que ça construit dans leur imaginaire? La littérature jeunesse constitue souvent un terreau riche pour s'interroger sur notre identité et sur nos rapports au monde. Alors pourquoi invite-t-on à ce point les enfants à aimer les animaux alors que parallèlement à ça, on les éduque à aimer la viande? Moi, j'y vois là une sorte de paradoxe, en fait. En faisant quelques recherches, j'ai découvert que dans les albums jeunesse, les animaux servent souvent à éduquer les enfants de manière plus affective que si les personnages étaient humains, à faire passer des idées par des images plus douces, à appuyer des messages, à gagner plus facilement la confiance des enfants. Le zoo est d'ailleurs très représenté dans la littérature jeunesse, qui en fait donc un lieu acceptable dans l'imaginaire collectif. Voir des animaux en captivité dans des zoos destinés à amuser ou à divertir les humains, semble donc quelque chose de normal, voire de désirable dès la petite enfance, alors qu'ils sont tout bonnement en captivité. La privation de liberté est intégrée comme la norme. Et on l'a vu, le langage est un instrument puissant pour communiquer l'approbation de la culture dominante sur la consommation d'animaux. Il y aurait tout intérêt à émanciper notre langage si on veut rendre présent ce référent absent. Par exemple, on pourrait parler d'animaux libres plutôt que d'animaux sauvages, pour caractériser les animaux non domestiques. On pourrait aussi nommer les bouts de viande, les bouts d'animaux, pour ce qu'ils sont, au lieu de parler de manger du porc, du poulet ou du jambon, comme s'il n'y a pas d'animaux concernés. Et dans le livre de Carol Adams, elle dit que la chosification des animaux pour des plaisirs gustatifs irait de pair avec celle des femmes pour des satisfactions sexuelles. Ces deux réifications, donc la réification, c'est-à-dire faire de quelqu'un un objet ou une chose, participeraient de la même logique d'exploitation et de domination. Plus précisément, Adams met en parallèle l'obsession culturelle pour les parties du corps des femmes, seins, cuisses et fesses, très présente dans la publicité, la pornographie ou dans les conversations de tous les jours. Avec l'idéologie de la consommation de viande qui réduit de nombreux animaux à de simples morceaux de chair, steak, jambon, côte de veau. Dans les deux cas, des êtres sensibles sont démembrés symboliquement ou littéralement pour devenir des objets de consommation. À chaque fois, leur individualité est niée, leurs intérêts dévalorisés et leur intégrité bafouée. Bon, bah, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé dire sur cette question de l'exploitation animale et sur notre rapport aux animaux, mais j'ai fait le choix de vous résumer seulement la pensée de Carol Adams, qui est une référence en la matière. Je vous invite à écouter à ce sujet l'émission Coup de cœur des Noctules de ce mois-ci, qui parle de ce rapport aux animaux et qui complète bien ce propos que je viens de dire. Et pour conclure, j'aimerais dire que ce sujet particulièrement politique et polémique est au cœur de nos vies et que moi je m'étonne souvent qu'on n'en parle pas ou peu entre nous, comme si c'était un impensé. Je me demande ce qui empêche que la parole circule autour de notre manière de participer à cette exploitation, à comment ça nous place dans le monde et dans la vie. Je me demande pourquoi c'est si difficile d'admettre ça et d'agir de manière responsable en conséquence. Je me suis dit, bah, par exemple, quand on s'alarme sur la destruction du vivant, eh ben, on adapte notre comportement, on tente de consommer de manière plus éthique, on fait gaffe à ce qu'on achète, on se déplace moins avec nos voitures. Alors pourquoi est-ce que la consommation d'animaux morts et ses multiples enjeux semblent très souvent impossibles à discuter? Donc je vous laisse avec cette question. Et on va s'écouter une chanson de Sheila qui s'appelle « Sale chienne ».
Le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisées seront les ondes. L'heure du combat arrive, sonne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas là pour me faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas presseux de Kane, ça va sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. J'suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine.
Chienne.
J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle.
Chienne.
Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête.
Chienne.
Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête.
Fous le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de cums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Derrière ton écran, dépousselée, t'es seule. Ouais, je vais niquer tous vos tabous. Aussi épuisé qu'une source andalouse. Vénus est revenue à l'ordre du jour. Ta rage en a tout, tu lances du lourd. Je suis celle que tu n'attendais pas.
celle qui ne t'inspire pas. Je suis celle que t'insulte, je te fais la bise, man. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais. Même si je rappais, dansais, chantais, parlais anglais, pour certains je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînées à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé, celle qui n'a pas quémandé, celle qui vient te démanger, celle qui t'a bien dérangé. Sale chienne, sale chienne, sale chienne, ouh, sale chienne, sale chienne. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'MC, les femmes ne seraient bonnes qu'à la baisse. Passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête.
Chienne.
Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête.
Et pour continuer cette émission sur les non-humains, je vous partage une interview d'un artiste argentin qui s'appelle Thomas Saraceno. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Cette exposition a commencé avec l'idée de vibration. Cette idée m'a beaucoup inspirée quand j'étais en Amérique du Sud, en Argentine. J'ai rencontré des tribus indigènes et nous avons eu des sortes de rituels chamaniques. Soudainement, j'ai commencé à entendre des choses que je n'avais jamais entendues avant, à partir de cette idée d'être capable d'entendre d'autres voix. J'ai commencé à imaginer beaucoup d'œuvres et de sculptures. J'ai essayé de voir comment elles pouvaient s'intégrer dans différents types d'écosystèmes. Je suis devenue plus sensible et je percevais des choses dont j'ignorais qu'elles pouvaient avoir une voix. Pour l'exposition, la première approche a eu lieu au palais de Tokyo, lorsque je me suis demandé « qui vit ici ?». Peu après, nous avons trouvé environ 500 araignées dans tous les coins du bâtiment. Nous avons donc décidé de leur donner un micro pour essayer d'entendre leurs vibrations. Je croyais en leur capacité de communiquer dans un monde que les humains ont toujours négligé, avec l'arrogance d'être aussi dominant envers les autres espèces. Ce qui m'intéresse dans cette rencontre entre différentes sensibilités, différents mondes et modes de communication, la poussière peut avoir une voix, tout comme les araignées ont une voix, et tout le monde, visiteurs et visiteuses comprises, peut participer à cette sorte de jam session, un ensemble en train de se faire. La question de la qualité de l'air devient de plus en plus évidente, et cela veut dire qu'avec toute cette matière particulière qui flotte dans l'air, maintenant nous pouvons donner une voix à ces particules. Et cela est très utile pour la manière dont on essaye de comprendre la vie sur cette planète. Cela signifie que nous avons une responsabilité, celle de répondre à certains phénomènes. Et comment nous pouvons ralentir, flotter, être capable d'imaginer différents futurs. La plupart des cultures se construisent toujours autour des phobies. On comprend dans l'exposition, je l'espère, la relation qu'on essaye d'établir avec les araignées et le lien que nous essayons d'avoir avec elles. Alors peut-être que nous pouvons commencer à être plus attentifs à elles. Beaucoup de gens, après avoir visité l'exposition, deviennent conscients de cet animal qui vit sous le même toit qu'elle. J'essaye aussi d'expliquer ce concept de division des choses dans la nature, le concept géopolitique que les humains ont mis en place pour essayer de séparer les choses. En vérité, je pense que nous sommes beaucoup plus connectés. Ou bien, nous devons nous connecter à nouveau pour survivre.
Je me dis que ça vaudrait peut-être la peine un jour, si les stérolinguistiques devraient être remis au travail, je pense qu'ils devraient au moins étudier ce que j'appellerais à partir de ce moment-là la règle de Krauss, donc en référence à Bernicoff. C'est quoi la règle que serait cette règle de Krauss? Mais je prends ce que Bernicoff a étudié et remarque que quand on est dans un paysage, qu'on appellerait un paysage sonore, dans un milieu sonore, ben les diverses espèces vont utiliser des fréquences différentes. Les grenouilles vont utiliser une fréquence, les insectes vont utiliser une certaine fréquence, les oiseaux, certains oiseaux, etc. et qu'on remarque que donc chacun utilise la bande de fréquence dans laquelle son mode d'expression le porte, mais qu'en plus chaque animal va faire attention à ne pas trop d'une certaine manière couper la parole aux autres, enfin, ne pas en tout cas parler, parasiter le moment de parole des autres. C'est ce que Bernie Krause appelle le respect du temps de parole. Et je me dis, la règle de Krause dirait donc que les animaux ont une forme de respect du temps de parole des autres et ne surchargent pas, ne parasitent pas les moments de parole lorsqu'on a affaire à un milieu où les choses se passent relativement apaisées. Eh bien, dirons-nous que, d'une certaine manière, les araignées ont suivi, d'une certaine manière, la règle de Krause en n'occupant pas les ondes acoustiques que nous pouvons percevoir, mais en occupant une toute petite frange d'ondes vibratoires. Et donc, en fait, d'une certaine manière, eh bien, elles doivent sentir, elles doivent pouvoir revendiquer qu'il y a quelque chose de profondément injuste. Mmh. Elles ont fait un pacte du silence, elles n'occupent pas les ondes sonores, elles s'occupent simplement de leur petit domaine à elles d'ondes vibratoires, et puis voilà qu'on va, nous, envoyer des ondes à tous azimuts, avec la 5G, avec nos instruments, avec quantité de choses, et qu'on est en train de transformer l'atmosphère en une espèce d'horrible cacophonie vibratoire ou d'onde, une cacophonie ondulatoire, et que d'une certaine manière, les araignées doivent se dire, mais vraiment, ceux-là, ils se croient partout chez eux.
Les barbares analphabètes, c'est nous. Ce sont nous. Hein, écrivez-vous aussi, Vincent Després. C'est vrai que vous le dites. Araignées. Les araignées ont fait le choix d'être sages, d'occuper les interstices de la vision et de l'audition, de peupler de leurs petites et de leurs propres histoires un monde où parler fait vibrer et où vibrer fait répondre. Vous dites aussi qu'elles nous apprennent ça. Elles nous apprennent peut-être aussi à penser, à renoncer aux privilèges permanents et omniprésents de l'audible et du visible dans nos sociétés.
On vient donc d'entendre Vinciane Després en réponse au travail de Thomas Saraceno, qui est un artiste donc qui a travaillé avec des musiciens, des musiciennes, des spécialistes des araignées et des scientifiques pour entrer en relation, échanger des puissances expressives et musicales. Et donc Vinciane Després qui a écrit un texte sur ces expressions, ces puissances expressives des autres êtres, dans un premier temps inspiré par le travail de Saraceno et qui donc a par la suite écrit et publié le recueil Autobiographie d'un poulpe. Et qui reprend notamment aussi un imaginaire d'hétérolinguistique et une association de personnes qui étudient les puissances expressives des autres êtres vivants. Et donc c'est une idée qui vient de Ursula Le Guin, qui a été écrit à la base par Ursula Le Guin, et donc Vinciane Després remet au boulot l'hétérolinguistique et leur donne différents champs de disciplines à explorer. Et donc, pour rester dans l'univers de la science-fiction, ou continuer dans l'univers de la science-fiction, on va vous lire un extrait d'un livre de Becky Chambers qui s'appelle L'espace d'un an. C'est le tome 1 d'une trilogie qui s'appelle donc le tome 1 Les Voyageurs. C'est donc un livre qui raconte les aventures d'un équipage qui creuse des tunnels dans l'espace pour relier différents points de la galaxie. Donc ça fait des ponts. Et donc cet équipage est constitué de différentes espèces et donc se rencontrent autour de leurs différentes cultures et différents corps, différents rapports au monde et tout ça.
Et dans le passage qu'on va vous lire là, c'est un moment où un personnage qui s'appelle Sissix, qui est une andrisque, c'est-à-dire un reptile, enfin qui est d'une lignée reptile, elle explique le fonctionnement du système familial andrisque à Rosemary, qui est un personnage humain. Et donc pour commencer, Sissix demande à Rosemary...
Tu n'es jamais allée chez des andrisques ?
Jamais.
Rosemary se racle à la gorge.
Et j'aimerais bien que tu me fasses une petite piqûre de rappel.
Les humains sont adorables.
Lâcha Sissix en riant. Rosemary lui lança un regard noir qui la fit sourire.
Ne t'inquiète pas, vous mettez tous des siècles à comprendre.
Elle leva une main pour compter sur ses griffes.
Famille couvée, famille plume, famille foyer. Dis-moi ce que tu sais.
Vous naissez dans une famille couvée.
Exact.
Ensuite, vous partez rejoindre une famille plume.
Je t'arrête tout de suite. On ne part pas dès la première plume. On part quand on a trouvé une chouette famille plume ou quand on a rencontré d'autres adultes avec qui on souhaite fonder une nouvelle famille plume.
Une famille plume, ce sont des amis et des amants.
Oui, les gens avec qui tu noues un lien émotionnel.
Mais elles changent souvent ?
Pas forcément. Selon vos critères à vous, oui, j'imagine. On change de famille plume quand le besoin s'en fait sentir et on n'a pas les mêmes besoins aux différents stades de sa vie. On n'a jamais vu un Andrisk rester toute sa vie avec les mêmes personnes. Deux ou trois, si, peut-être, mais pas le groupe tout entier. Les groupes évoluent.
Et dans une famille plume, tout le monde a le même âge ?
Pas du tout. Au début, les jeunes ont tendance à rester entre eux, mais quand ils ont pris confiance en eux et acquis un minimum d'expérience, ils se diversifient. On se soucie moins des différences d'âge que les autres espèces. Si tu as des plumes, c'est bon. Et rejoindre des gens plus âgés, ça peut être une expérience géniale. Dans ma seconde famille plume, j'étais de loin la plus jeune et...
Sissix gloussa, le regard perdu dans le lointain.
Disons que j'ai beaucoup appris.
Et vous...
Rosemary se sentit rougir.
Dans une famille plume, tout le monde, tu sais...
Ça coupe ? On peut dire ça, mais pas comme tu l'imagines. Au moins une fois, c'est sûr. Mais au sein d'une famille plume, tout le monde n'est pas amoureux de tout le monde. C'est tout un réseau de sentiments différents. Oui, on s'accouple beaucoup, surtout les jours de fête. Une fête sans tête, c'est inconcevable.
Rosemary connaissait ce mot. Littéralement, ça voulait dire « eba ». Mais son usage courant avait des sous-entendus beaucoup plus osés.
Cela dit, beaucoup ont des relations platoniques. Ils se touchent plus que les humains, mais ne s'accouplent pas. Enfin, si, parfois. Pour nous, s'accoupler, c'est comme... voyons voir. Comme un bon repas pour vous. Ça fait toujours plaisir et tout le monde en a besoin et personne ne va cracher dessus. Au pire, ça fait du bien. Au mieux, c'est transcendant. Et comme un bon repas, ça peut se faire en public, avec des amis ou des inconnus. Mais c'est meilleur quand on le partage avec une personne qu'on aime d'amour.
Je comprends.
Rosemary hocha la tête.
Ensuite, la famille foyer qui élève les enfants. Mais pas ses propres enfants, c'est bien ça ?
Exactement. On est fertile dès qu'on a toutes nos plumes. Mais on envisage d'élever des enfants qu'une fois devenus vieux. À ce moment-là, on forme une famille foyer. Souvent, elle est constituée des plus âgés parmi une famille plume qui décide de s'installer tous ensemble. Parfois, on contacte des gens d'une famille plume précédente pour leur proposer de venir avec nous. Attention, les familles foyers aussi, ça peut évoluer. On vieillit, mais on reste Andrisk.
Sissix rit doucement.
Et les jeunes donnent leurs œufs à une famille foyer ?
Oui.
Dont un membre est de leur sang ?
Quand c'est possible, oui, mais on choisit en général le groupe le plus commode. Quand une femme engendre une couvée fertile, une casse, elle va consulter le registre local et trouve une bonne famille qui a de la place disponible.
Et si elle ne trouve personne ?
Alors elle enterre sa couvée. De toute façon, la plupart des petits vont mourir. La plupart ne vont même pas éclore. Non que les petits soient malades, c'est la vie, tout simplement. Étoile, combien serions-nous si tous nos œufs survivaient ? C'est inimaginable. Trop nombreux.
Elle frémit. Rosemary réfléchit.
Question idiote peut-être, mais pourquoi les familles plumes n'élèvent-elles pas leurs petits ? Il y a assez de monde pour se partager le travail, non ?
Si, mais ce n'est pas une question de ressources ou de disponibilité, ce sont les étapes d'une vie. Un jeune adulte voudra voyager ou faire des études, et on s'attend à ce qu'il change souvent de famille. Les aînés sont plus stables, et surtout, ils ont plus d'expérience, ils ont acquis de la sagesse, ils connaissent la vie, quoi.
Elle eut un sourire narquois.
Je ne vous comprendrai jamais. Comment les humains peuvent-ils demander à des adultes tout neufs de faire de leurs jeunes des personnes véritables ?
C'est... Oui, tu marques un point.
Rosemary ferma les yeux pour se concentrer.
La famille foyer devient la famille couvée pour ses œufs.
Oui. Et, d'ordinaire, elle va tenir le temps d'élever deux générations. Souvent, les adultes de la première rapportent leurs œufs à la famille qui les a élevés. C'est ce que j'ai fait, moi.
Rosemary se redressa.
Attends un peu, tu as des enfants ?
Sissix ne les avait pas évoqués une seule fois.
J'ai eu une portée fertile.
Quand ?
Il y a trois standards. Deux petits ont vécu, paraît-il. Mais ça ne fait pas de moi une mère.
Elle cligna de l'œil.
Je suis trop jeune pour ça.
Rosemary regarda par le hublot. Tout en se reprochant son spécicentrisme, elle voyait Sissix sous un autre jour. Surprise, elle s'avoua qu'à ses yeux, la maternité était un concept fondamental et que l'identité, pour elle, était lourdement influencée par la procréation. À sa décharge, elle était mammifère. Si elle choisissait un jour d'avoir des enfants, elle passerait presque un an à voir son corps se déformer, puis encore un an, peut-être plus, à nourrir du produit de son organisme un être fragile et impuissant qui ne maîtrisait même pas ses membres. Les petits Andrisk se développaient à l'écart de la mère et sortaient prêts à marcher. Rosemary avait beau comprendre les distinctions biologiques, elle n'arrivait pas à concevoir la reproduction comme un acte désinvolte qui consistait seulement à entasser des œufs dans un panier, les refiler à d'autres et reprendre le cours de sa vie. Un panier ? Peut-être pas, mais elle voyait nettement un panier d'osier blanc, plein d'œufs tachetés, avec des nœuds pastels autour de l'anse.
Tu leur parles, ou bien ?
Sissix eut un sourire agacé.
Non, ce ne sont pas des gens à nos yeux, et ils ne font pas partie de ma famille. Ça te paraît cruel, mais je t'assure, les anciens qui les élèvent leur donnent beaucoup d'amour. Cela dit, les anciens ne s'attachent pas aux petits avant de voir les personnes qu'ils deviennent. C'est la plus grande joie des familles foyers, voir les petits qu'elles ont élevés revenir, adultes tout emplumés, avec des expériences, des idées, une personnalité.
Comme toi aujourd'hui.
Exactement.
As-tu déjà rencontré tes parents biologiques ?
Ma mère d'œuf, une fois. Elle s'appelle Saxixt. C'est une femme très drôle, et je suis contente qu'elle m'ait transmis ses plumes. Mon père d'œuf, jamais. Il vit sur Ikekt avec sa famille Plume. Du moins aux dernières nouvelles. Ça fait un bail. Il a pu passer à autre chose.
Rosemary pensa à la réaction de Lovey quand on la chargeait de trop de travail. Désolée, ça va devoir attendre un peu. Si je surcharge mes bases de données, ça ralentira le traitement des calculs en cours. Une sensation très désagréable.
Comment faites-vous pour suivre l'évolution de toutes ces familles, alors ?
Le gouvernement tient des fichiers centralisés. Toutes les familles Plume y sont enregistrées. Et les archivistes y notent tous les changements. Tu peux t'y renseigner sur les gens, apprendre qui sont leurs parents d'œufs, qui les a élevés, de quelle famille ils ont fait partie, avec qui ils ont fait des couvées et où sont allés les petits.
Ça doit être un sac de nœuds. Pourquoi se donner tant de mal ?
Pour la même raison que nos noms comprennent tous nos liens familiaux. L'inceste, c'est Burke.
Alors, les baleines à bosse ont terminé leur discussion débutée au début de cette émission. Et nous, on va finir la nôtre sur cette émission sur les non-humains qu'on avait envie de vous partager ce mois-ci. Moi, j'avais envie de rebondir sur un truc que tu dis, Yuri, dans ton texte sur Estelle Zumengual. Enfin, plutôt qu'elle dit sur comment la nature, eh ben, c'est pas juste un endroit un peu carte postale dans lequel on marche, mais qui a une existence propre. Ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais que le vivant a son existence en dehors de nous. Et moi, ça me fait penser à la question de l'éducation, parce que j'ai été éduquée plutôt à comprendre la ville, à comprendre les humains, à socialiser avec, et j'ai eu des zones d'aisance avec ça, même si des fois je suis pas très à l'aise en ville, mais quand même je sens que je suis socialisée à ça, alors que je vis à la campagne maintenant et que j'aime bien aller marcher, et ben je me rends compte que je suis pas assez attentive à tout ce qui m'entoure, et que bah comme l'anecdote que tu racontais de la personne qui t'a rendu attentive à ce dans quoi t'étais en train de marcher, quoi, et ben moi je me rends compte que c'est une espèce de conscience qu'il faudrait que j'aie à chaque fois que je vais marcher, ou alors qu'on m'amène à ça, mais que, enfin voilà, ça me fait penser à ce truc d'éducation, que en fait si on n'est pas éduqué à ça, il y a comme une rééducation à ça, à prendre en compte le vivant autour de nous, plus que comme je suis un humain qui marche dans une jolie carte postale, et c'est joli et ça me fait du bien, mais et ça m'aide dans mes pensées, mais voilà, ça m'a fait penser à ça.
Grave. Et pour rebondir sur cette idée de rééducation, là quand j'ai lu le personnage dans L'espace d'un an, où il y a Lovet qui parle, pour signifier spontanément que c'était une intelligence artificielle, j'ai pris une voix comme ça, genre « Désolé, ça va devoir attendre un peu ». Alors que exactement le travail de Becky Chambers, c'est de désamorcer ces stéréotypes idiots, et que Lovet, c'est un personnage complexe et hyper important. Et du coup, je reviens sur ce truc de... on a des espèces de plis qui sont pris par l'éducation et qui font que... bah voilà, qu'on voit soit les vivants comme une carte postale, soit qu'on voit les robots comme, enfin, ou les intelligences artificielles comme des,
comme comme des robots,
comme des robots à l'ancienne, quoi.
Je trouve que ça me fait penser, moi, aux peuples colonisateurs qui ont du mal à apprendre d'autres langues parce que c'est les langues dominantes. Et que du coup, il n'y a pas vraiment d'utilité à apprendre d'autres langues. Et que, en fait, nous, comme le monde des humains, il sait exister en prenant toute la place, on n'arrive pas à décaler de nos rythmes, décaler de nos préoccupations pour se laisser complètement envahir par d'autres réalités. Et pourtant, moi quand même, ça m'a assez aidé dans la vie, de que ce soit être dans des endroits où il n'y a pas d'humains aux alentours et disparaître, et être dans un environnement où les choses se passent, les êtres vivent des trucs, et je suis juste témoin, ou je fais partie parce que les autres me sentent, mais je n'ai pas forcément à participer. Et ça m'a, à plein de moments, ça m'a vraiment guéri. Ça a guéri des trucs d'angoisse ou de panique. Mais voilà, et ça me fait penser au fait qu'on est en fait aussi nous-mêmes constitués de mitochondries. Là, c'est des petites cellules intelligentes, enfin des petites cellules qui vivent dans nos cellules à nous. Et enfin, de nos toutes petites cellules aux champignons, aux bactéries. Enfin, que quand on dit « je », on a l'impression que... c'est très clair, ce jeu-là. Et alors qu'en fait, le jeu humain, il n'existe pas du tout sans une interaction archi-complexe et archi-multiple d'êtres vivants, complètement de d'autres êtres vivants, quoi. On est constitué vraiment de d'autres êtres vivants et par les autres êtres vivants. J'ai l'impression que ça ne nous fait pas du bien de l'oublier.
Grave, à fond. Oui, oui. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais là de... des balades dans du monde vivant et d'être dans... Moi, pareil, ça me fait vraiment du bien de, des fois, me balader dans un monde qui n'est pas d'abord structuré pour me plaire, me parler, me faire agir, qui n'est pas pensé par des publicistes ni des urbanistes, qui n'est pas pensé en fonction de moi. Et que je trouve ça hyper reposant de ne pas être au centre. Et que, ouais, quand les rapports avec les humains sont complexes, des fois, ça arrive. Ça fait vraiment du bien de d'aller être un vivant parmi d'autres. Ouais.
Oui, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin de ça. Enfin, j'entends ça régulièrement, en fait, des personnes qui vont se ressourcer dans ce truc d'être le seul ou la seule humaine à des kilomètres à la ronde pour apaiser ce truc-là que le monde des humains nous fait vivre, quoi, qui est quand même souvent assez complexe, quoi. Mm-hmm. Il peut y avoir des belles choses, hein, on va quand même pas... Mais par contre, qui est assez, assez complexe, quoi.
Mm-hmm. Mais c'est ce qu'elle dit à la fin de la Estelle...
Sommengual,
la dernière phrase où elle dit « On est des étrangers ». Non, qu'est-ce que...
Ah oui, la toute phrase dernière de phrase, Frances Theodora Parson. Ah. Ah oui, que pour pas être...
On est seul à la fête du vivant.
Ah oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Mm-hmm. Et que des fois, on se sent un peu étrangère, quoi.
Mm-hmm. Bah, c'est...
Mm. Enfin, que ça peut être et hyper reposant... Et hyper un peu angoissant. Moi, je sais que c'est pas toujours hyper... par exemple, j'ai du mal... je vais faire une confidence. J'ai du mal à aller dormir seule dans la montagne, par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui font ça. Mm-hmm. Mais moi, ça me fait ce truc-là d'être seule parmi le vivant et de pas être hyper à l'aise avec ça. Mais c'est encore une fois une histoire de... Si j'avais fait ça depuis toute gamine, comme plein mm-hmm. d'autres copines, je serais à l'aise avec ça.
Mm-hmm. Ouais, moi, il m'arrive, je flippe aussi quand je vais dormir seule dans la montagne. Mais je flippe pas du tout des animaux. Enfin, je suis vraiment... J'ai l'impression que même je serais beaucoup plus à l'aise avec l'idée de me dire que... Enfin, même s'il y avait un risque avec des animaux, je serais beaucoup plus à l'aise de ce que je peux craindre de me faire, je sais pas... Si un loup avait vraiment la méga dalle et me mangeait, je sais que c'est pas ça qui se passe. Mmh. Mais je serais beaucoup plus rassurée par ça que par ce que peuvent faire les humains, quoi. Enfin, moi, vraiment, quand je suis dans la montagne, ce dont je flippe, c'est des humains. Mmh. Comme partout, en fait. Enfin, jamais aucun non-humain m'a fait chier ou m'a pourri ou m'a dévasté autant qu'un humain l'a fait. Enfin, jamais. Personne. Mmh.
Que ça me faisait penser à des peuples où il y a des initiations pour dépasser les peurs et qui font relationner différemment. Ça fait relationner différemment avec soi-même, avec sa propre peur, avec ses propres limites. Mais aussi, c'est des initiations, ce qui souvent se passe quand on côtoie d'autres puissances que les puissances du monde humain. Et que du coup, ça permet de aussi éprouver la relation avec d'autres puissances que les puissances du monde humain. Et que quand tu dis, je ne l'ai pas fait depuis toute petite, mais ce n'est pas accompagné, ça ne fait pas partie de notre apprentissage de comment on est en relation avec d'autres puissances. On est juste en relation comme avec un rapport de prédation, de danger, de c'est qui contrôle l'autre, c'est qui... est dangereux pour l'autre et du coup qui va réussir à lui mettre des limites et se faire respecter et tout ça. Et en fait, c'est quand même... Heureusement, il y a des intelligences aussi humaines qui essayent de proposer d'autres manières d'interagir avec les autres. Et puis c'est propre à la France parce que, par exemple, dans le nord du Canada, ben, le rapport aux vivants, aux ours ou aux autres êtres, c'est pas pareil. Mais c'est toute cette histoire-là de comment on relationne, quoi. Mmh. Et ben, pour finir, on va écouter donc... une œuvre musicale créée par une intelligence artificielle, un ordinateur qui s'appelle Yamus, qui compose des œuvres de musique classique contemporaine.
Et au mois prochain.
Merci à Gaëlle pour la technique, aux petites fourmis qui étaient avec nous sur la table.
Au motard devant le studio de Radio Royan, au soleil qui a chauffé ce studio ce matin.
Et bon mois de mai.
À bientôt.
Ciao.